Le cheval qui descend sur le mur, par Géode Ham. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BY-NC-ND 3.0. En lecture libre sur atramenta.net. Le cheval qui descend sur le mur. Plus je vieillis, plus je crois que ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves. Jean Cocteau. Mon grand-père n'est jamais monté sur un cheval. Il n'en a jamais possédé un seul. Mais il a travaillé toute sa vie par eux, et pour eux. Ils ont été des compagnons, toujours présents. Même lorsqu'il a dû cesser son métier, il les aimait. Mon grand-père était maréchal Ferrand. Quand j'étais enfant, j'étais très impressionné par ce si grand et ancien titre, ce grade supérieur et royal de maréchal dont je n'osais imaginer le nombre d'étoiles et de galons. Notre petite armée de gosses obéissait toujours à notre grand-père maréchal, oubliant le Ferrand dans les étincelles qui jaillissaient, fugitives et magiques, du fer entre marteau et enclume. Mon grand-père était maréchal du rêve. Il le demeura jusqu'à son dernier jour. Il sut même transmettre cet héritage sans prix à ses fils et ses filles. Nous habitions près de la gare au temps où les locomotives à vapeur noircissaient encore d'escarbilles les draps étendus au jardin et où leurs grondements et sifflets rythmaient les jours et les nuits. Pour aller à l'école et chez mon grand-père, nous prenions l'escalier bordé de figuiers et la route entre les platanes jusqu'à la place du village, vaste espace de terre battue ombragée de tilleuls, traversé dans sa longueur par la rue principale montant vers l'église. Le haut de la place à gauche était surmonté d'une gigantesque muraille, portant en son sommet les bâtiments scolaires et leurs cours bordés de romarins et d'iris qui fleurissaient toujours pendant les vacances, peut-être pour échapper aux petites mains cruelles qui torturaient déjà assez leurs longues feuilles empesées. On y accédait par de longues volées de marches de pierre, étroites et raides, collées au flanc du rempart. Au pied, à l'ombre des arbres, se disputaient de paisibles mais ardentes parties de pétanque, et les vieux s'y reposaient sur les bancs près d'une fontaine tarie chaque été, dès que les cigales crissaient comme assoiffées. De l'autre côté de la rue à droite, l'autre moitié de la place recevait chaque soir le soleil couchant et s'étendait depuis le kiosque à musique jusqu'à l'atelier du maréchal Ferrand. Deux larges et hautes portes de bois brun, toujours ouvertes sur l'antre mystérieux où le métier a ferré, la forge et son soufflet géant, tous ces outils merveilleux, obscurs et magiques, donnaient à mon aïeul le grade royal de bottier du seigneur cheval, cet être pour lui supérieur dont il savait nous parler avec tant d'amour et de respect. Le fer dans ses mains devenait or et argent. Il sonnait clair. Le fer était le plus précieux des métaux puisqu'il était œuvre du maréchal. Aujourd'hui, je ne puis traverser le village sans un regard un peu triste pour les grandes portes à jamais closes sur l'atelier. Les chevaux avaient quitté les champs et les vignes avant les hommes et il n'y avait plus guère de sabots à chausser. Mon grand-père ne travaillait plus que pour quelques randonneurs de passage, quelques amateurs de porte-bonheur. Mais ce qui lui fit arrêter son ouvrage, ce fut un marchand de souvenirs made in Taïwan lorsqu'il lui commanda un stock de fer. Il voulait les coller sur des planchettes aux côtés de santons en plastique fabriqués en Asie de l'Est et quelques clous pour suspendre des clés. Je me souviens encore de sa colère désespérée. C'était une insulte personnelle. Jamais je n'ai connu une telle rage dans sa voix et dans ses yeux. Il ferma donc son atelier, loua l'appartement au-dessus et se retira avec ma grand-mère dans leur petit mât de campagne entre oliviers, chêne-liège et cyprès. Du hameau qu'on traversait pour y aller, il fallait grimper le long du chemin caillouteux, tourner autour de la fontaine qu'aucun été n'avait jamais pu tarir, elle, comme un miracle. Puis on découvrait cette maison claire, lumineuse, comme les cocons de soie blonde, entourée de mimosas, de lauriers roses et blancs, d'un vieil oranger, où, près des pins parasols dont nous aimions manger les pignons, fleurissaient lavandes et serpolets, toutes senteurs qui sont celles de mon enfance. Là-haut, l'hiver bleuissait de son ciel merveilleux. Le printemps s'étirait de tiédeur comme les chats tigrés roux et blanc sur le toit de la maison. L'été s'étoilait de pétales de roses qui neigeaient, tout jaunes et éblouissants, depuis les tuiles rousses jusque sur le seuil de la maison. L'automne se violaçait des figues éclatées, des grappes de raisins blonds et bleus dans les ciels gris argentés des oliviers. Comment ne pas rêver en ce pays enchanteur? Comment ne pas croire aux histoires, aux légendes, aux poésies racontées, inventées par un grand-père maréchal? Car là aussi, dans ce mât perdu dans la garrigue, où l'on eût plus facilement accédé à dos de mulet ou de cheval qu'en automobile, mon grand-père avait fait place à ceux pour lesquels il avait tant œuvré tout au long de sa vie. Il veillait jalousement à ce que le grand et robuste rosier jaune, envahissant comme de gros sourcils broussailleux au-dessus des fenêtres, ne vienne ombrer un pan de mur ocre. Il taillait sans indulgence toute branche impudente. Ma grand-mère souriait en haussant les épaules, mais elle ne trahissait pas le secret. Depuis le toit jusqu'au sol où l'herbe venait courtiser le mur et disputait la place aux joubarbes, descendaient pas à pas des fers de cheval. Je dis bien « descendaient », car les fers étaient dressés comme des huts et marquaient le pas d'un animal. Et ils brillaient comme s'ils étaient lustrés chaque jour par le frottement sur les cailloux du sentier courant dans le thym. Que de fois avons-nous questionné mon grand-père ? Est-ce toi, grand-père, qui as mis ces fers à cheval ? Est-ce toi qui les fais briller ? Mon grand-père se récriait,
niais.
Non, non, bien sûr. Et devant nos mines intriguées, incrédules, il ajoutait, en baissant la voix et clignant des yeux, avec son accent bourru et chantant, c'est le cheval qui descend sur le mur, qui a marqué son chemin. Nous protestions avec énergie. Tu te moques de nous, grand-père. Les chevaux ne marchent pas sur les murs. C'est toi qui as mis les fers. Mon grand-père riait, mais niait. Non, il n'avait rien fait. Il connaissait seulement la clé du mystère. Et parfois, le regard vif et malicieux, mais la voix sourde, pour ne pas crier le secret sur les toits, il nous racontait son histoire. Les plus grands d'entre nous doutaient un peu de la véracité de la parole de notre grand-père. Mais tous, en réalité, nous voulions y croire, et nous y croyons. « Oui, mes petits, disait mon grand-père, ici nous avons un cheval merveilleux, qui descend sur le mur. D'où vient-il ? Il vient du ciel. Il vient avec la nuit, au lever du jour. Il descend sur le toit, le long du mur. Où va-t-il ? Il va à la fontaine, boire l'eau pure et jouer. Il ne remonte jamais par le même chemin. Il s'envole, s'évapore avec le soleil du jour naissant. L'as-tu vu, grand-père ? Peut-on le voir, nous aussi ? Grand-père l'avait vu parfois sans que l'animal le sache. On ne doit pas le voir. Il est magique. Si on le regarde, il devient gris et disparaît en pleurant. Ces jours-là, il pleut jusqu'au soir. Il est très beau. C'est un cheval de vert filé, fluide, cristallin, transparent comme l'eau, vaporeux comme la rosée, rose dans le soleil levant où les étoiles de la nuit brillent encore. Sa longue crinière et sa queue sans fin s'enroulent dans les arbres et se déposent sur l'herbe comme de la poudre d'argent et de diamants. Il a les jambes fines et vives, son pas est rapide sur le mur, ses fers font un bruit si léger qu'il ne réveille que les oiseaux. Sa jolie tête, aux grands yeux étonnés, tendres et malicieux, s'incline sur les pétales jaunes du rosier. Ses lèvres embrassent les fleurs. Son doux museau, velouté et humide, s'embaume d'un parfum très délicat. Il se promène de ci, de là, coquet et fantaisiste, comme un tulle vaporeux porté par une brise timide et fraîche. Il baguenaude, indécis et affairé, comme un papillon. Il cligne de ses yeux qui pétillent comme s'ils étaient des bulles de savon irisées. Il va ainsi jusqu'à la fontaine. Il joue dans le bassin clair, danse sur la pierre moussue, chante dans le filet d'eau, barbote et s'éclabousse, s'évanouit, s'efface puis s'élève comme un petit fantôme facétieux. Enfin, quand le soleil monte au ciel, il part, oh, plus haut encore, de plus en plus transparent. Et quand on ne le voit plus, il peut enfin caracoler sur les nuages blancs de l'été, invisible et rieur, jusqu'à l'aube suivante. Mon grand-père était un poète, un maréchal du rêve, je l'ai déjà dit. Jamais il ne manquait de mots pour décrire son merveilleux, magnifique cheval. Chaque fois qu'il en parlait, il forgeait, ciselait davantage et encore mieux son rêve. Cet animal fantastique était l'âme, le cristal de tous ceux qu'il avait jadis ferré, servi, avec tout l'amour de son devoir de maréchal ferrant. Chaque soir, lorsque j'habitais au mât dans la garrigue, lorsque le soir tombait, que le soleil n'était plus là que dans les odeurs encore chaudes des plantes aromatiques, dans le silence enfin rendu par les cigales, j'ai rêvé du cheval qui descend sur le mur. Chaque soir, j'ai espéré me réveiller assez tôt pour l'apercevoir, caché derrière la fenêtre, ou grimpé dans les vieux mûriers aux troncs creux. Mais l'aube toujours l'emportait avec elle avant que mon regard puisse l'apprivoiser. Grand-père me consolait de ma désespérance matinale en me racontant encore les facéties du cheval qu'il aimait tant. Sa voix était un chant grandiose et gai que j'entends encore. J'ai grandi. Mes parents ont voulu me dire que c'était mon grand-père qui avait accroché les fers sur le mur après les avoir amoureusement polis et vernis, qu'il avait inventé son histoire, que le cheval n'existait pas, n'était que la rosée du matin. Mais je ne les ai pas crus, je n'ai pas voulu. Mon grand-père est parti avec ma grand-mère pour toujours. Je suis sûre qu'ils ont rejoint le cheval mystérieux, que ma grand-mère hausse toujours les épaules en souriant. Mon grand-père maréchal accompagne désormais chaque matin le cheval mystérieux le long du mur et jusqu'à la fontaine, marchant au pas près de lui qui caracole quand l'aube vient déposer sa rosée matinale. Il neige toujours des pétales de soleil sur le pas de la porte de notre mât, entre cyprès et oliviers, lauriers roses et lavandes. Mon père taille le rosier, et aujourd'hui, grand-père à son tour, raconte à mes enfants cette histoire extraordinaire. Que personne ne s'avise de détromper les petits minois émerveillés. Maréchal ne saurait mentir, mon père a vu le cheval. Ma mère hausse les épaules en souriant. Ici se termine Le cheval qui descend sur le mur par Géode Ham, lu par Christiane Johanne.